Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Nous sommes dans la maison de Dieu pour méditer ensemble sa parole. Nous allons lire deux versets dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Les versets 11, les versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Le titre de notre message ce matin, c'est l'utilité de la parole de Dieu. L'utilité de la parole de Dieu. Tout ce qui est utile a une valeur. Le monde expose devant nous tous ses produits sociaux, économiques, pour nous séduire. Il importe de savoir ce qui est utile et ce qui est valable pour parvenir à la satisfaction de nos besoins. L'utilité de la parole de Dieu. La première phrase dans notre texte, c'est que Paul dit à Timothée, ce jeune pasteur, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » La Bible est un livre inspiré de Dieu. L'inspiration est un acte divin selon lequel l'écriture a été donnée aux hommes sous la dictée du Saint-Esprit pour être écrite comme expression unique et ineffable de la vérité et de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Et Pierre se rejoint à Paul pour dire que la source des écrits prophétiques provient de Dieu. Selon 2 Pierre, chapitre 1er, les versets 20 et 21. Pierre dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Paul rappelle à Timothée que la parole de Dieu fut donnée par l'intermédiaire de certains hommes qui furent guidés par le Saint-Esprit. les croyants de Dieu ne peuvent rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. Et pour que cette parole soit précise, Dieu, il a donné à ces hommes le Saint-Esprit, de sorte qu'aucune erreur ne s'est glissée de leurs écrits. Aucune erreur ne s'est glissée de leurs écrits. Beaucoup de sectes, de faux docteurs qui sont dans le monde ne confessent pas Jésus comme fils de Dieu et comme Dieu. Ils disent que la Bible était falsifiée. Ces faux docteurs de la loi n'y comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Paul nous demande de nous éloigner de ces hommes-là. Et voilà pourquoi la parole de Dieu est utile. L'inspiration divine fait l'utilité et l'efficacité des Écritures pour l'édification et la formation des croyants. Si c'était un homme qui aurait écrit cette parole, à la vérité, aujourd'hui, que serions-nous? Que ferions-nous? Nous devons croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne cessons de le dire. Croître, croissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Sinon, nous sommes vulnérables devant toutes les fausses doctrines qui envahissent le monde aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est utile pour enseigner. L'enseignement est un point fondamental de la croissance spirituelle de l'Église. Dès le premier siècle, l'Église primitive avait fait l'expérience de cet enseignement. Ceux qui acceptèrent la parole persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui acceptaient sa parole, ceux qui étaient sauvés, ils persévérèrent. Ça veut dire que ce n'était pas un jour, c'est dans la persévérance toujours. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. C'est une responsabilité des dirigeants d'église d'instruire les croyants dans la vérité de Dieu. Alors, ce matin, si les croyants du premier siècle persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, et les croyants du 21e siècle d'aujourd'hui, comment ça se passe? Les croyants du 21e siècle sont-ils intéressés à ces instructions? Et toutes les églises locales confrontent à ce problème d'abstentéisme. Dans les églises, le matin, pour commencer avec l'étude biblique, il n'y a personne, fort souvent. Ou bien s'il y a quelqu'un, ce sont les habitués, les têtes qui sont toujours là. Les mercredis soirs, c'est pareil. Et ceci, c'est dans toutes les églises locales. Des chrétiens, des croyants absentéistes. Ils ne sont pas intéressés à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes vulnérable. La parole de Dieu est utile pour convaincre. La parole de Dieu est utile pour amener les croyants à reconnaître leur culpabilité et leur péché. Parce que si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas savoir quand on a péché ou non. C'est la parole qui va vous dire, non Jean-Pierre, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est la parole qui va vous dire, non Jean-Pierre, vous ne devez pas être là dans ce droit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Sinon, nous ferions tout ce qui nous semble bon, sans inquiétude, sans nous inquiéter. C'est pour dire, s'il n'y avait pas de loi dans une société, c'est une société vouée au périssement. Les gens qui circulent dans la rue, même sous les feux rouges, ils franchissent. La parole de Dieu est utile pour corriger. C'est la parole de Dieu qui ramène à la vérité ceux qui étaient dans l'erreur et dans l'hérésie afin de les transformer. Si vous avez comme doctrine pour être sauvé, il faut observer le sabbat. Si vous savez comme doctrine, celui qui persévérera depuis le commencement jusqu'à la fin sera sauvé. Ça ne nous concerne pas dans Matthieu 24, verset 13. Ça ne nous concerne pas. L'église serait déjà enlevée. Mais nous savons que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Le salut est un don. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce don? Rien. La parole de Dieu est utile pour instruire. Ce verbe a deux sens dans la Bible. Instruire, il a le sens aussi d'éduquer. Éduquer. La parole de Dieu est utilisée pour instruire et éduquer les enfants, les guider dans le droit chemin. C'est grâce à la parole qu'on peut voir, qu'on peut savoir si on est sur la bonne voie ou la mauvaise. Ordinairement, la bonne voie dans la rue, c'est cette voie qui nous mène dans le péril. Eh oui. Salomon dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il devient grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est une responsabilité des parents. Vous, les parents, ce matin, vous avez une responsabilité d'instruire vos enfants. Vous avez une responsabilité d'éduquer vos enfants. Et cette responsabilité vient de Dieu. C'est une responsabilité des apôtres, parce que les premières églises étaient sous l'enseignement des apôtres. C'est une responsabilité aussi des dirigeants d'église. Les enfants de Dieu doivent être éduqués, instruits, selon la parole de Dieu. Nelson Mandela a écrit que l'éducation est l'âme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Seule la parole de Dieu peut changer le monde si les hommes la mettent en pratique ce matin. Seule la parole de Dieu. Je vous assure, si, comme on voit dans les trains, dans les métros, partout, le téléphone, si la parole de Dieu était comme ça utilisée, on aurait un monde calme, respectueux, paisible. Le but principal de la Bible, la parole de Dieu, n'est pas l'éducation de l'homme, mais son salut. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour notre salut. La croix que nous avons, symbole où Dieu coula son sang. Pourquoi? À cause de nos péchés. Pourquoi? Pour avoir le salut. Le but principal de la Bible c'est pour la libération du péché. Puisque nous étions esclaves du péché. Mais Dieu, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tout le monde parvienne au salut et à la connaissance de sa parole. C'est la volonté de Dieu. Que tout le monde parvienne à la connaissance de sa parole. Tout le monde parvienne au salut. Dieu nous éduque par son amour et par sa miséricorde, même quand il châtie. Même quand il châtie. Parce que le châtiment, c'est une éducation que Dieu donne à ses enfants. C'est une éducation aussi que les parents donnent à ses enfants. Quand l'enfant a fait de bêtises, si on ne tape pas, comment on va le corriger? Si on ne le punit pas, comment on va le corriger? Eh oui, aujourd'hui, dans les lois et Union européenne, on va instituer que le parent n'a pas le droit de taper. Si vous lisez tous les livres des proverbes, vous allez voir, il faut taper. Il faut taper. Et sinon, comment on va le faire? On dit à l'enfant, ne fais pas ça. On fait un petit tour. Il est là encore. Ne fais pas ça. La seule façon pour le témoigner, c'est une tape. Il faut taper. C'est ce que la Bible dit. Si vous ne châtiez pas l'enfant, vous êtes voué à l'échec dans son éducation. Il y a un petit texte qui dit Si les parents vous paraissent sévères quelquefois, les enfants, c'est qu'ils veulent vous corriger de vos défauts. On a parlé d'une mère qui aimait tellement son enfant et cet enfant avait un ciseau dans sa main. L'histoire raconte que l'enfant était victime de pointes de ciseaux qu'il a crevé les yeux, l'œil. Et ça fait mal. Mais quand l'enfant devient grand, il pose des questions à sa maman. Comment cela était-il arrivé? C'est par amour? Et non, c'est pas par amour. Parce que si il y avait amour, on devait enlever ces ciseaux de la main de l'enfant. S'il n'avait pas voulu, on le tape. Eh bien, sinon, on ne s'en sortirait pas vainqueur. Et l'enfant souffre aujourd'hui toute sa vie avec l'œil qu'on appelle boy. Alors, si vous aimez vos enfants ce matin, il faut les corriger en tapant. Il faut sanctionner, il faut châtier, sinon il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Dieu nous éduque par son amour et par sa miséricorde, oui, mais il nous châtie. Il nous châtie. Il corrige celui qu'il aime, comme le font des parents aimant à leurs enfants. Dieu console ses enfants comme une mère compatissante. L'éducation rend l'homme saint toujours plus dépendant de Dieu. Elle produit en lui des fruits de justice et fortifie sa foi. L'éducation est une réprimande qui prend parfois la forme de l'épreuve pour nous amener à l'obéissance. Et oui, ce n'est pas mauvais quand vous châtiez un enfant. Parce que Dieu nous châtie à travers les épreuves. C'est pour nous ramener plus souvent à lui. Parce que quand tout va bien, il n'y a pas, bon Dieu, c'est pour après. Oui. Jésus avait appris l'obéissance à travers la souffrance. Selon Hébreux chapitre 5, verset 8. À travers la souffrance. Il a appris l'obéissance. Et c'est lui qui l'avait dit, il a obéi jusqu'à la mort. Il a fait preuve de son obéissance. Frère Roland a parlé tout à l'heure de Hébreux chapitre 4, verset 12, c'est ça, Frère Roland? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle atteint le tréfonds de nos cœurs. Elle juge nos sentiments et nos pensées. C'est la parole. Selon Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole est une arme offensive et défensive. La parole est une puissance. C'est par elle que Dieu a tout fait dans la création, sauf l'homme et les commandements. Il a fait l'homme de sa main, vous savez, depuis la Genèse, avec de la poussière de la terre, hein, fait une pâte à modeler et il souffle de ses narines. Il devient un être vivant. Et c'est sa main qui a écrit les commandements que nous devons mettre en pratique aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Et c'est lui seul qui sait ce qui se passe en nous. Parce qu'il révèle ce qui est caché. Il voit tout et il sait tout. Regarde ce qui est écrit dans Psaume 139 que tout le monde connaît. Hein? Psaume 139. Verset 1 et 2. Ensuite, 7 à 12. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètes de loin ma pensée.
verset 7.
Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Vous voulez vous cacher pour Jean-Pierre? Oui, vous pouvez. Vous pouvez vous cacher pour Aldo? Oui, vous pouvez. Mais vous ne pouvez pas vous cacher aux yeux de Dieu. Dieu, il sait tout, il voit tout. Il n'y a rien de secret avec lui, parce qu'il voit dans le secret. Oui, il voit dans le secret. Quand nous observons ce qui se passe dans le monde, si l'homme pouvait savoir ce qui se passe dans nos cœurs et nos pensées, le monde serait déjà détruit, anéanti dans ses décombres. Et heureusement, tout est sous contrôle de Dieu par son omnipotence, son omniprésence et son omniscience. Il n'y a que Dieu qui possède toutes ces qualités. Il sait tout. Il peut tout et il est partout. Est-ce qu'il y a d'autres comme lui? Non. Seul Dieu. Dans Deutéronome chapitre 1, Genèse, Exode, Lévitique, nom Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 2, chapitre 4, le verset 2. Dans Deutéronome 4, verset 2, nous lisons. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. C'est un appel que Dieu a fait à ces faux docteurs, faux prophètes qui disent que la parole est falsifiée. Jésus avait fait un avertissement à tous ceux qui voudraient ajouter ou retrancher un iota de la parole, reniant ainsi qu'il s'agit de la parole inspirée de Dieu. Ils n'auront aucune part à l'arbre de vie et ne pourront pas entrer dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Selon Apocalypse chapitre 2, verset 18 et verset 19. La parole de Dieu est oui et amen. Nous n'avons rien à y ajouter, ni rien à retrancher. Et qu'est-ce que nous devons faire avec cette parole? À part de la mettre en pratique, nous devons la prêcher. Eh oui, il faut prêcher la parole. La prédication de la parole de Dieu, Paul l'a parlé beaucoup. Connaissant l'utilité de la parole, Paul exhorte les croyants à prêcher la parole. Nous devons prêcher et proclamer cette vérité au monde entier. En toute occasion, favorable ou non. Et combien de fois vous avez prêché la parole à un ami, un passant, un voyageur, quelqu'un que vous avez côtoyé. À combien de personnes vous avez présenté l'évangile de Jésus-Christ? Prêche la parole. Est-ce que vous prêchez la parole, mes frères et sœurs? Regarde ce que Paul l'a bien précisé à Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Dans le verset 2, il dit à son jeune Timothée, ce jeune pasteur, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Combien de fois vous prêchez cette parole? C'est une obligation puisque le verbe est à l'impératif. Il faut prêcher la parole de Dieu. Partout, à quiconque. Et Paul invite les responsables de l'Église à encourager avec douceur ceux qui sont fidèles à continuer dans la même voie. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle pour jouir les effets de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas fidèle, vous passez à côté de ce que Dieu nous a demandé. Il nous a demandé que nous soyons fidèles. Fidèles en parole, fidèles en action, fidèles dans la persévérance, fidèles dans la prière, fidèles dans l'enseignement, fidèle dans la communion fraternelle. Est-ce que vous êtes fidèle ce matin? Et oui, nous pouvons nous appeler, oui, je suis infidèle, mais vous pouvez ajouter tous les restes. Il faut être fidèle pour jouir les effets de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'y reste jamais sans effet. Jamais. La parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Dieu a pourvu à tous ceux qui sont dans le besoin par sa parole. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant des souillures du monde, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à accomplir toutes les œuvres. C'est si vous vous écartez des souillures du monde. Parce que le monde nous entraîne dans la perversité. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin de les pratiquer. Est-ce que nous pratiquons ces bonnes œuvres, mes frères et sœurs, ce matin? Commencez par moi et terminez sur vous. Les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous, est-ce que nous les pratiquions? L'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir ses bonnes œuvres. Mais est-ce que cette parole est dans vos mains chaque jour, dans la lecture, dans la méditation? C'est difficile parce qu'on n'a pas de temps et on n'a pas de temps. On a du temps pour tout. Sauf 10 minutes pour la parole. Il n'y a pas. Et voilà pourquoi nous sommes si faibles. La parole de Dieu sanctifie. Jésus, dans sa prière sacerdotale, il a demandé à son Père, il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous cherchez une autre vérité? La parole est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passeront point. Est-ce que vous avez déjà cette parole ce matin? C'est une fortune, mes frères et sœurs, la parole de Dieu. Toutes les autres fortunes vont être détruites, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je vous demande ce matin, de serrer cette parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.